Les informations en direct de Radio Zinzine ainsi que sur BAM Radio de ce samedi 18 juin 2016. Des hordes de gros muscles crânes rasés vociférant des chants patriotiques ont envahi les rues de Marseille. Certains jours, les rues ressemblent à des champs de bataille, des drapeaux tricolores ont même réinvesti les balcons et les fenêtres, et le sentiment national semble être d'une impitoyable injonction. Le centre-ville est quadrillé par des forces de l'ordre, canons à eau et autres chiens de garde. Et pendant ce temps-là, le gouvernement annonce la possible interdiction de manifester pour des voyous gauchistes. Alors non, le fascisme n'est pas encore passé en France. C'est tout simplement que Marseille, comme toutes les grandes métropoles de l'Hexagone, ou en tout cas la plupart, s'est transformée en un vaste stade de foot à ciel ouvert. Alors, du panis et du foot pour le peuple de la cité phocéenne. Et derrière ces images surabondantes de matchs, de maillots colorés, de viande saoule qui arborent les rues, on oublierait presque que le foot, au final, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu, ou plutôt, c'est un jeu. Et c'est bien ça qui le rend intéressant. Et un jeu qui se joue partout, dans toutes les banlieues du monde. Un sport populaire et qui sait aussi parfois être revendicatif, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, dans la rue, c'est aussi un autre jeu qui se joue. Et on l'a vu mardi dernier par la taille et la violence des manifestations à Paris et dans d'autres villes. Un jeu que le gouvernement, par sa détermination et son autisme, ou plutôt sa possibilité de faire actionner sa police et ses discours télé, serait peut-être bien en train de gagner. Mais qui gagne un pion n'a pas remporté la partie. Alors à vos jeux, rien ne va plus. Les dés sont jetés, mais rien n'est joué. Vous êtes sur Radio Zinzine, et c'est les informations du soir. Ceux qui et celles qui nous écoutent pour la première fois, j'ai oublié de préciser que le samedi soir, les informations sont en direct de Marseille. Donc on va parler pas mal de cette ville au niveau de l'actualité de la semaine, de ce qui s'est passé ces derniers jours. En tout cas, on commence avec l'agenda. Je zappe la météo parce que j'ai absolument pas regardé, mais je parie qu'il va pleuvoir. Alors peut-être qu'il y aura du soleil, mais c'est pas le sûr, espérons-le. En tout cas, pour ce qui est de l'agenda, ça commence avec le dimanche 19 juin, c'est-à-dire demain, toujours à la Plaine, place Jean Jaurès, dans le premier arrondissement de Marseille. C'est l'Assemblée 13 ans en lutte qui vous invite à les rejoindre pour s'organiser autour du mouvement social. Lundi 20 juin, au cinéma Les Variétés, à 19h30, il y a une projection d'un film italien qui s'appelle L'incroyable histoire d'un village de Calabre sauvé par l'arrivée des migrants. Je ne vous en dis pas plus, mais ça a l'air très bien. Lundi, toujours à 22h, Évasion à Port-de-Bouc pour une projection en plein air. Et c'est un projet qui s'appelle Port de Bouc, une épopée collective qui est portée par l'association Film Flamme, dont on parle assez régulièrement à Radio Zinzine, puisque c'est l'association qui tient le cinéma autogéré Le Polygone Étoilé. Donc là, c'est un projet en collaboration avec le cinéma Le Méliès et qui propose aux habitants de réaliser des films de 3 minutes en pellicule 16 mm. Et ces éclats de ville forment petit à petit une série où chaque geste de cinéma, récit personnel ou fiction improvisée donne à voir un portrait de Port de Bouc par les siens. Mardi 21 juin au 36 rue Bernard, c'est dans le 3e arrondissement de Marseille, il y a un soutien à Radio Galère 88.4 que vous pouvez écouter sur la bande FM depuis Marseille, avec au menu soupe thaï, taboulé, gazpacho, sablé, thé glacé et le tout à prix libre. Et si j'insiste sur le menu, c'est que ce jour-là, je serai au fourneau avec toute une équipe. Alors surtout n'hésitez pas à venir. Mercredi 22 juin, Darla Mifa, conférence sur la Palestine. Quelle place pour la Palestine dans le monde arabe aujourd'hui? La Palestine depuis 2011, entre occupation, autoritarisme et crise régionale, avec Nicolas Dau-Pouillard, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, et Xavier Guignard, doctorant en sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Mercredi 22 juin, toujours, cette fois c'est à 18h au 38 rue Clovis-Hugues, c'est à la Belle de Mai, toujours dans le 3e arrondissement de Marseille. Il y a une discussion sur E.ON et Gardanne avec cette fameuse centrale biomasse qui va voir le jour et qui menace les forêts du Luberon, du Verdon et des Cévennes, mais comme vous le savez déjà, puisqu'on en parle souvent sur Radio Zinzine. Vendredi 24 juin, à Marseille, toujours 19h, 1000 Babor, 61 rue Consola, rencontre débat avec Pierre Douillard qui a écrit L'arme à l'œil, violence d'État et militarisation de la police, avec la collaboration de l'Assemblée des blessés 13 et la commission bibliothèque de 1000 Babor. Je ne vais pas vous lire le descriptif du bouquin, mais l'extrêmement intéressant. Je vous invite en tout cas à aller voir sur internet et si vous pouvez venir jusqu'à Marseille pour voir cette discussion. Le samedi 25 juin à 17h, retrouvailles au Polygone Étoilé autour du cinéma de Traverse, et c'est une sorte de cinéma expérimental, je ne vous en dis pas plus, mais pour les gens qui sont férus de ce genre de cinéma, n'hésitez pas à aller au Polygone Étoilé, c'est toujours une partie de plaisir, et je dis ça sans cynisme. À tout de suite. We'll be right back. Et on vient d'écouter Guts avec son morceau Ghetto in Paradise. On ouvre le dossier social de ces informations après, on parlera de foot. Alors j'espère qu'on aura un petit peu le temps, une fois n'est pas coutume, mais on peut pas passer à côté de ce qui s'est passé à Marseille, bien sûr, donc on reviendra dessus et peut-être de manière un peu plus conséquente la semaine prochaine. En attendant, on va écouter deux interviews qui ont été réalisées hier, puisqu'il y a eu une action coordonnée de Sud Culture ainsi que de la CIP, la coordination intermittent et précaire, ainsi que 13 en lutte. Et on a eu Aude et Michel au téléphone hier. On écoute ça tout de suite par rapport à cette action. Alors bonjour Aude, on est avec toi. Tu es intermittente et hier sur Marseille, il y a eu une action. Il y a une action liée à la réforme de l'assurance chômage, parce qu'on a aussi tendance à l'oublier aujourd'hui avec la réforme du travail, qui est aussi ça en parallèle, qui est en train de se mettre en place. Et donc vous avez fait une action par rapport à cette réforme en cours.
Donc ça, on est allé au MUCEM et on a déployé trois énormes banderoles sur les passerelles. Avec écrit ici un thème de la précarité, stop culture vitrine et séparation État MEDEF. En parallèle, on a tracté justement pour informer les gens qui sont très peu au courant sur cette nouvelle convention chômage qui se négocie depuis 3 mois et qui, dans laquelle le MEDEF impose un cadrage budgétaire de 800 millions d'économies sur la caisse chômage directement sur les cotisations.
Parce que l'argument, il est assez simple par rapport à la réforme, c'est qu'en gros, les chômeurs, ça coûte trop cher.
Voilà, on veut faire croire que les chômeurs coûtent trop cher, que le système chômage, cotisation, prestation est déficitaire. On parle de dette. Nous, on argumente sur le fait que cette dette n'existe pas si on regarde le simple ratio cotisation, prestation. Mais qu'en revanche, se crée une dette sur les frais de fonctionnement de l'UNEDIC qui sont pris sur les cotisations. Et là, effectivement, il y a une dette. On dit que cette dette n'est pas la nôtre. C'est ça l'argument de la CIP et des syndicats. Le patronat avait proposé plusieurs points où seraient faites ces économies sur les annexes 8 et 10 des intermittents. Il y a eu les syndicats de secteur qui se sont réunis et qui ont proposer un régime plus juste et équitable sur les annexes 8 et 10, qui a été signé à l'unanimité le 28 avril. Suite à ça, il a été refusé par le MEDEF et la CFDT, CFE, CGC, qui ont désavoué les signatures de secteur en disant que cet accord du 28 avril ne tenait pas compte du cadrage budgétaire. Hier, il a été validé par l'État, en fait. Qui reprend en main les négociations sur le régime général et qui valide l'accord du 28 avril.
Parce que là, il y a eu l'échec entre les partenaires sociaux. En gros, c'est le MEDEF et les syndicats. Donc l'État, là, joue le rôle d'arbitre et reprend les choses en main.
Voilà, l'État reprend les choses en main parce que le MEDEF, il y a 3 jours, a déclaré qu'il refusait toutes les négociations pour qu'il y ait zéro augmentation de cotisation patronale. C'est ça qu'il refusait.
La position de... Enfin, je ne sais pas s'il y a une position unique, mais de la CIP là-dedans, ou de Sud Culture, c'est quoi qui est défendu?
Là, je vais parler plus à titre personnel. On pense que ce n'est pas forcément ce qui est dit au niveau national, mais tant que, même si l'accord du 28 avril est signé, c'est ce qui est le cas, ce qui est une bonne nouvelle, pour des conditions pour lesquelles les intermittents luttent depuis 10 ans, on continue à être ferme sur ce cadrage budgétaire injuste et très dangereux. Prévoir à l'heure actuelle, on veut savoir où sera pris cet argent, si cette économie est toujours d'actualité ou non. Et pour l'instant, il n'y a aucune déclaration sur ça. C'est-à-dire, même si l'accord du 28 avril est signé, 185 millions cette année, comme il est demandé, et 400 millions d'ici 2020, pour 4% des chômeurs, je me demande qui va rester dans le régime intermittent, où sera pris cet argent. Sachant que les négociations chômage, c'est tous les 2 ans. Et en fait, le danger, il est là. C'est-à-dire, si l'État met la main à la poche sur le régime chômage pour les intermittents. Jusqu'à quand il mettra la main à la poche et jusqu'à hauteur de combien? Et nous, on ne demande pas des dons de l'État. On demande que les cotisations des travailleurs soient pas volées, simplement. Et là, on se retrouve pris à la gorge.
Par rapport aux mobilisations, enfin, on pense bien sûr à cet été, au festival, etc. Ça va être plutôt tranquille ou il y a des intermittents qui ont envie de se mobiliser, tu sais?
Bah, jusqu'à présent, avant que, comme le MEDEF bloquait tout, et même avant, avec les syndicats qui ont désavoué des signatures, ce qui est quand même assez exceptionnel et grave, il y avait plusieurs appels à la grève sur les festivals. Maintenant, avec l'annonce d'hier, je ne sais pas où ça en est. Pas l'impression que ça va appeler à la grève. À titre personnel, je pense qu'il faut continuer à informer et que on continue à parler de précarité. C'est toujours une réalité en France. On continue à parler de zéro économie sur le dos des chômeurs. Continuer à parler que 4 chômeurs sur 10 en France sont actualisés, sont payés à l'heure actuelle et que c'est inadmissible. Enfin, que le combat continue, en fait.
Bah, Culture a toujours travaillé avec la CIP. Je veux dire, on fait partie des collectifs, les collectifs intermittents précaires qui s'est construit depuis quelques années, depuis les années 2003. Culture a toujours été partie prenante des collectifs intermittents et précaires, quoi. La dynamique sur Marseille, elle est peut-être autre par rapport à d'autres villes. C'est vrai qu'en le mouvement des intermittents en tant que tel a eu du mal à prendre cette année. On a fait un certain nombre essayé de faire des assemblées générales qui ont peu regroupé de gens, quoi. Donc, parce que aussi, c'est par rapport au climat social. On a dit que les intermittents avaient gagné la lutte, quoi. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une très faible mobilisation, quoi. Derrière les négociations qui viennent d'être signées, on va avoir un retour de bâton énorme, quoi. Cette victoire-là n'est pas une victoire pour moi, encore une fois, de ce qu'on a obtenu hier. Parce que si on vide de son sens le statut des intermittents, comme il s'est passé avec les précaires, c'est-à-dire que si la caisse elle est vide, on touchera rien à la finale, même si on a 512 heures sur 12 mois, quoi. Moi, je pense qu'on nous a un peu berné dans cette histoire-là, et c'est aussi une manœuvre de la part, à mon avis, de la part du gouvernement par rapport au climat social qui est très dur et très violent en ce moment, par rapport à la loi El Khomri, et on est empâté dans cette loi également, parce que tout ce qu'on avait pu obtenir dernièrement, on nous le reprend également. Donc voilà, c'est pas une victoire des chômeurs et des intermittents, quoi. Une perspective dans l'histoire qui se déroule en ce moment, je vois mal les intermittents partir en grève en disant on a gagné. Donc après, c'est de dire soyons vigilants, ok. Mais je pense aussi, c'est notre rôle également, et c'est ça qu'on va peut-être reprendre au niveau des initiatives. Pour nous, il va falloir qu'on travaille, je veux dire, avec les différents syndicats, ça c'est important, aussi avec la CIP et avec les collectifs, parce qu'on est toujours partie prenante de ces collectifs-là, pour tout un travail sur la question de la précarisation, je veux dire, par rapport aux chômeurs, etc., etc., quoi, je veux dire. Il faut quitter le chemin de l'intermittence pour aller, pour dépasser cette chose-là. Par rapport à l'action qu'on a menée, l'action d'hier était une action quand même unitaire, elle n'était pas uniquement la CIP et ses cultures. La CNT avait appelé, 13 en lutte avait appelé, et des gens de Solidaire, sont venus à cette action. Donc on est bien sur un terrain interprofessionnel et intersyndical, quoi.
Alors on est avec de retour en direct sur Radio Zinzine ainsi que sur BAM Radio. Et pour continuer sur le mouvement social et cette fois plus autour de la loi El Khomri, on apprend à l'instant que tous les terminaux pétroliers autour de Marseille ont été débloqués et donc ça serait la fin de la grève. Toujours par rapport à la loi El Khomri, Martinez donc de la CGT a rencontré Myriam El Khomri hier et on fait le constat de leur désaccord. Myriam El Khomri dit « Je viens de recevoir les propositions de la CGT, je vais les regarder. Hein. Comme l'ensemble des autres, nous n'avons pas pu trouver un consensus sur la loi de travail, sans blague. Il y a des désaccords qui ne sont pas nouveaux. » Bon, ça c'était plutôt évident, en tout cas ce que ça signifie derrière. Et là, faut réinsister sur cette manifestation de mardi où il y avait énormément de gens. Alors déjà dans les rues de Marseille, il y avait énormément de gens, mais aussi à Paris, avec un cortège de tête. Alors ce qu'on appelle le cortège de tête, c'est plein de gens non affiliés. En tout cas, c'est pas ce qu'ils mettent en priorité leur affiliation à un syndicat, qui était au début de la manifestation. Mais alors, d'après les témoignages des gens qui étaient là-bas, c'était extrêmement diversifié, tant au niveau des gens, de leur provenance géographique, mais aussi de leur provenance sociale. Il y avait plein de gens qui travaillaient dans différentes branches. Il y avait aussi des gens des syndicats qui ont décidé de prendre le devant de la manifestation, et c'est une manifestation qui a été extrêmement violente. On en a entendu parler dans les médias, mais toujours avec cet aspect de dénonciation des casseurs. Les casseurs ont toujours le bon dos et on n'arrive pas, en tout cas les médias ne veulent pas, pardon, aller au fond des choses, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi une manifestation c'est le théâtre de violence, tout simplement parce que c'est le reflet de la violence sociale. De ce que des gens vivent au quotidien. Et donc si on s'intéresse pas à cette violence quotidienne, effectivement on peut pas expliquer la violence des manifestations et effectivement on va un peu nulle part. En tout cas, chapeau au gouvernement qui là a essayé de jouer sur le côté pathos en disant que des vitres de l'hôpital Necker avaient été cassées, ce qui est vrai, mais il n'a pas été dit que les manifestations ont été bloquées pendant plus d'une heure juste à cet endroit-là, justement, devant l'hôpital Necker, et que c'était le parcours légal et déposé de la manifestation. Les gens voulaient continuer et qu'ils ont été bloqués à cet endroit-là et qu'à un moment donné, eh ben, ça a débordé sur ce qu'il y avait autour. En tout cas, c'est important de le replacer dans son contexte pour essayer de comprendre les choses. Pour revenir à cette rencontre entre Martinez et El Khomri, il y a aussi du côté du gouvernement une manière d'essayer d'apaiser les choses et de renouer avec la CGT après lui avoir cassé du sucre sur le dos de manière assez insistante. Là, c'est un peu une épreuve, une mise en spectacle de la rencontre entre le gouvernement et la branche revendicative, donc le syndicat majoritaire CGT. Par rapport aux interdictions de manifestation, on en parle un petit peu aussi dans l'interview qu'on va écouter avec Fred de Sudrail, mais juste pour en dire deux mots, effectivement c'est sûrement un effet d'annonce du gouvernement parce que ça paraît une position assez difficile à tenir. En tout cas, il y a des voix qui s'élèvent à gauche de la gauche, notamment Arnaud Montebourg qui parle d'un coup de force permanent et de Pierre-Laurent PCF d'une manipulation. Alors après, quand ça vient, quand les déclarations viennent des politiciens, le problème c'est que on sait jamais vraiment si c'est honnête ou s'ils sont en campagne. C'est le propre de la politique telle qu'on la vit dans notre monde. Quant à lui, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la dérive autoritaire du gouvernement qu'il accuse d'instrumentaliser l'odieux acte terroriste contre des policiers lundi soir à Magnanville dans les Yvelines. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Et pour illustrer mon propos, je vais vous lire un tract en partie, la partie d'un tract qui a été signée par la coordination du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, donc le FUIQP, oui c'est ça, qui sort un tract qui s'appelle « Solidarité avec les familles des victimes et des violences policières, non à la criminalisation du collectif Urgence notre police assassine ». Le déplorable meurtre du couple de policiers à Magnanville dans les Yvelines, en région parisienne, est pris pour prétexte par le gouvernement et la droite pour proclamer publiquement leur volonté de passer la tondeuse à gazon. Exemple, le mercredi 15 juin 2016, sur les ondes de France Inter, l'invité de l'émission, l'invité de 7h50, n'était autre que le vice-président du parti Les Républicains et un ancien directeur général de la police nationale, Frédéric Pechnard. Au cours d'une question autour de ce qu'il ce qu'il y a eu lieu de faire en ce moment pour remonter le moral des fonctionnaires de police, M. Pechnard se lança dans une violente diatrine du conseil prodigué au ministre de l'Intérieur pour porter plainte contre la CGT jusqu'à la suggestion de la dissolution pure et simple du collectif Urgence Notre Police Assassine. À noter que ce collectif Urgence Notre Police Assassine est un collectif de personnes qui dénoncent les violences policières et qui suivent les procès lorsque des gens meurent entre les mains des policiers. Quant à lui, le Premier ministre, l'autre invité de la même tranche matinale de France Inter, continua sur l'interdiction des manifestations à Paris. Et tout ça en sachant que le 18 juin, alors c'est aujourd'hui le 18 juin, ce n'est pas que l'appel du général de Gaulle à prendre les armes contre un gouvernement d'extrême droite, mais c'est aussi la mort de Lamine Diène il y a déjà quelques années à Paris. En tout cas, il y a un rassemblement mort par la police. Et donc, il y a un rassemblement à 14h30, donc c'était aujourd'hui, au 58 rue des Amandiers. Et il y a eu un défilé. Alors, j'ai essayé de trouver des informations sur Internet, mais je ne sais pas plus que ça. Pour la suite, on va écouter Fred de Sudrail, avec qui on prend le temps de parler des choses, on prend le temps de parler du mouvement social, on prend le temps aussi de parler de pourquoi la SNCF était en grève, parce que à part les plaintes des médias sur le nombre insuffisant de trains et des fonctionnaires toujours en grève, on n'en sait pas trop plus. Là, on s'est dit qu'il fallait expliciter les choses un peu en profondeur, donc ce n'est pas un reportage France Info qui dure 3 minutes, ça dure un peu plus, ça dure une vingtaine de minutes, mais il est important de pouvoir laisser la place aux gens qui ont fait la grève durant ces deux derniers mois. Alors, on est avec toi, Fred de Sudrail. D'habitude, on se voit en manifestation. Aujourd'hui, je suis venu te voir dans le local syndical de Sud, à côté de la gare Saint-Charles à Marseille. Avant de faire le bilan de ce mouvement social, alors j'en parle comme bilan, c'est en tout cas pas pour l'enterrer, on verra, on va y revenir. Mais déjà, replacer le cadre, alors il y a la lutte contre la loi travail, et il y a aussi ce qui est en train de se passer au niveau interne à la SNCF. Donc je te propose de recommencer par un cadre global pour expliquer comment s'est ancré le mouvement des travailleurs qui sont mobilisés au sein de la SNCF, et ensuite on fera le bilan du mouvement.
Il y a eu effectivement dans ce mouvement de grève une articulation entre des revendications professionnelles, donc au niveau des travailleurs du rail, et au niveau interprofessionnel, donc relative à la revendication de retrait de la loi El Khomri. En ce qui concerne les travailleurs du rail, en fait, au 1er juillet 2016, c'est-à-dire dans pas longtemps, doit être mise en place une nouvelle réglementation du travail pour tous les travailleurs du rail. Et donc, suite à la réforme et aux grèves de juin 2014, l'aspect en fait négociation sur la réglementation du travail n'avait pas été traité à l'époque, a été reporté sur de très longues négociations pour aboutir donc au projet du gouvernement, de l'Union des transports ferroviaires et publics et de la direction SNCF. Il se trouve que le gouvernement, le patronat ferroviaire et la direction de la SNCF nous ont imposé une négociation à trois niveaux, donc sur un décret de loi, sur une convention collective et un accord d'entreprise. Évidemment, cette lutte a des liens évidents avec le projet de loi El Khomri et notamment l'article 2 sur l'inversion de la hiérarchie des normes. Petit à petit, dans les négociations, on a donc eu un gouvernement qui a plus ou moins, comme il l'a dit lui-même, tordu le bras à la direction de la SNCF pour proposer un accord d'entreprise, donc en faisant croire aux cheminots qu'il s'agissait grosso modo d'un maintien de la réglementation actuelle, alors que c'est faux. C'est bien en dessous, ça divise les cheminots. Et en plus, il y a un article, l'article 49 de cet accord d'entreprise, qui permet, en cas de difficulté économique, sectorielle ou locale de l'entreprise SNCF, de tout remettre en cause.
Pour préciser, cet accord d'entreprise, ça implique quoi? Une plus grande flexibilité? C'est ça l'intérêt qu'il y a derrière par rapport à ce que veut mettre en place la SNCF, et par rapport aux travailleurs, qu'est-ce que ça change? C'est un peu comme la loi travail. En gros, ça donne plus de pouvoir au patronat et aux dirigeants par rapport aux salariés.
Ouais, c'est ça. On est vraiment dans la logique de l'article 2 de la loi travail, donc qui procède à une inversion de la hiérarchie des normes. On se battait donc au début, et on se bat donc encore, pour avoir au niveau du décret de loi et de la convention collective, maintien et généralisation de la réglementation du travail SNCF. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a déjà eu la privatisation du fret ferroviaire. Là, il y avait donc l'occasion pour les opérateurs ferroviaires privés, qui soient au niveau des entreprises ferroviaires fret ou des entreprises qui font de la maintenance travaux sur les voies, d'harmoniser par le haut, en fait. C'est donc la possibilité de bloquer le dumping social. Le choix tactique de l'entreprise SNCF, c'est donc de faire un accord d'entreprise qui est effectivement mieux disant que la loi ou la convention, mais c'est très facile, hein, parce qu'ils sont tellement au ras des pâquerettes, pour faire croire aux cheminots que rien ne change. Cette situation va faire pression sur les conditions de travail, les conditions de vie, les emplois des cheminots d'entreprises publiques. Guillaume Pépi, aujourd'hui, est véritablement le PDG d'une multinationale des transports, qui compte 240 000 travailleurs pour seulement 155 000 cheminots. C'est-à-dire que l'ensemble des travailleurs dans les filiales ne vont pas bénéficier de cet accord d'entreprise. Les filiales, dans le groupe SNCF aujourd'hui, il y a plus de 1000 filiales en fait. Donc il y a des filiales à la fois au niveau français, il y a des filiales à l'international. Celle qu'on cite le plus fréquemment, ça concerne le transport de fret, c'est Géodis. D'accord, qui y compris a organisé le passage du fret ferroviaire vers le fret routier, puisque la SNCF est le premier transporteur de fret routier en Europe. Et il y a également Keolis, bon, qui est connu pour ses bus, donc là aussi avec un mécanisme de substitution du train vers la route. Mais Keolis, c'est aussi à travers le monde des métros, des tramways, des TER, etc. quoi. Et donc, y compris sur certains endroits, en France, il y a des filiales qui concurrencent directement l'entreprise publique ferroviaire. Là, j'ai parlé des transporteurs, mais pas loin d'ici, sur le golfe de Fos, il y a eu un appel d'offres pour gérer les aiguillages au niveau des trains, sur tout ce qui est Gravelot, Fos, etc. La SNCF, entreprise publique, n'a même pas répondu à l'appel d'offres. Elle a fait répondre une de ses filiales, qui s'appelle Sferis, à l'appel d'offres. Sferis, c'est aujourd'hui des travailleurs qui font exactement le même boulot que des cheminots. Donc ce qui permet à la SNCF aujourd'hui de directement exploiter ces travailleurs-là et de généraliser le dumping social. Donc le choix tactique téléguidé par le gouvernement de faire que la direction SNCF essaye d'acheter la paix sociale des cheminots avec un accord d'entreprise, c'est évidemment un piège. C'est un mensonge et c'est un piège. Et quand on le met en corrélation avec la loi El Khomri, on se rend compte, sous prétexte de difficultés économiques, locales ou sectorielles, c'est-à-dire tout le temps, hein, puisque la SNCF est en déficit très régulièrement, et on pourra en fait s'asseoir sur toutes les dispositions qui s'approchent de la réglementation du travail, mais qui s'en approchent seulement aujourd'hui, pour faire moins bien. Et avec la loi El Khomri, on pourra évidemment avoir des accords d'entreprise qui descendront même en dessous de ce que prévoit ou la loi ou la convention collective, qui sont déjà des niveaux très très bas aujourd'hui.
Alors pour continuer sur la loi El Khomri, il y a une mobilisation aussi de Sudrail parmi tout un tas de gens qui sont mobilisés contre cette loi. Et en plus, par rapport à ce que vient d'expliquer spécifiquement à l'entreprise de la SNCF, là on est dans un moment assez particulier avec l'euro de foot, avec le gouvernement qui lâche pas du tout au niveau de sa volonté d'aller jusqu'au bout de cette loi. Comment ça s'est passé, notamment ces dernières semaines, depuis fin mai, où il y avait cette échéance du 14, qui est la grosse manif de mardi, et où il y a une pression qui a été maintenue au niveau de plusieurs blocages à travers la France, et notamment au niveau de la SNCF, où il y a eu pas mal de gens qui se sont mis en grève.
Alors, je le fais encore en deux temps, un peu au niveau SNCF et après un peu au niveau global. Donc, sur la SNCF aujourd'hui, le mouvement est suspendu et en fait, quelque chose d'important qui va se passer, c'est est-ce qu'on va pouvoir, la Fédération Sudrail avec la Fédération CGT, exercer notre droit d'opposition commun par rapport à l'accord d'entreprise et par rapport à la convention collective. On doit se prononcer avant le 23 juin et le 24 juin pour ces deux échéances. Donc au niveau de la SNCF, la décrue du mouvement s'est faite parce que l'accord d'entreprise a effectivement jeté le trouble, parce que l'UNSA et la CFDT se comportent comme de véritables organisations patronales, enfin auxiliaires du gouvernement et de la direction. Et effectivement, il y a eu un rapport de force qui s'est étiolé. Et là où on est quand même un peu remonté, notamment vers la CGT, c'est que on a constaté ces difficultés d'avoir un rapport de force qui était bon mais pas suffisant. On a régulièrement interpellé donc la fédération CGT pour avoir à tous les niveaux, hein, national, régional, local, pour avoir des appels communs, pour avoir cet appel unitaire à l'opposition à ces deux accords, pour faire des piquets de grève en commun. Bon, il y a eu une unité syndicale qui a été très 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 compliquée à construire entre organisations syndicales. Ça s'est un peu mieux passé au niveau de à la base qu'au niveau des assemblées générales, encore que pas partout, mais ça a quand même été difficile. Donc aujourd'hui, on est sur cette voilà, sur cette possibilité de double opposition à ces accords-là qui pourraient éventuellement relancer la lutte. C'est pas tout à fait fini. Au niveau interprofessionnel, donc nous, on était évidemment Sudrail et l'Union syndicale solidaire dès le début dans la mobilisation contre la loi El Khomri, parce que c'est véritablement à la fois les problématiques ferroviaires et interprofessionnelles, vraiment les deux versants d'une même pièce, une pièce de la régression sociale. Alors aujourd'hui, oui, une grosse manif le 14, y compris à Marseille, hein, c'était quand même plutôt pas mal. Alors après, en termes de perspective, bon, il y a le 23 et le 28 juin qui ont été fixés, donc les dates d'examen au niveau du Sénat et puis retour à l'Assemblée nationale. Bon, enfin, pour vraiment pas faire de langue de bois, je pense que ça va être compliqué là avant l'été de pouvoir relancer une mobilisation, même s'il va y avoir encore des actions, même s'il y a encore des grévistes, même s'il y a encore des blocages. Il y a quand même un rapport de force qui s'est relativement atténué. Il y a l'été qui arrive, bon, il y a l'euro aussi qui est là. Ça paraît effectivement compliqué. N'empêche, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on voit que la mobilisation, elle est née il y a plus de 3 mois. Enfin, moi, je pense que ça va laisser beaucoup de traces de toute façon, et que y compris, on va reparler de la loi El Khomri après l'été, alors qu'il sera peut-être entré en vigueur. Après, il y aura son application concrète dans les entreprises. Et je pense que le mouvement dans les différents secteurs professionnels qui s'est fait, et y compris au niveau interprofessionnel, on va en entendre reparler quand précisément on va avoir l'utilisation de l'article 2, quand on va être confronté à des licenciements qui vont être facilités, quand on va être y compris confronté, malgré la communication là, sur la très relative embellie des chiffres du chômage, quand on va être confronté à une persistance d'un chômage de masse, on sera tout à fait légitime pour interpeller le gouvernement quel qu'il soit, sur la nécessité aujourd'hui d'aller plutôt vers une réduction du temps de travail et les 32 heures pour partager le travail, plutôt que de permettre l'allongement de la durée du temps de travail à travers des accords d'entreprise. Donc je pense que c'est pas fini, même si effectivement à l'instant T aujourd'hui, vendredi 17 juin, on peut considérer qu'on n'a pas gagné.
Et je me permets de réinsister là-dessus, parce que je trouve qu'on est quand même dans une situation... J'allais dire historique, assez particulière, quand on voit l'attitude du gouvernement qui est resté sur ses positions de manière complètement autiste, qui a joué de la violence. On voit aussi les techniques policières qui sont affirmées au cours de ces 2 mois avec extrêmement de violence. On l'a vu encore une fois mardi avec un gros discours aussi politicien et politicard derrière, où on parle encore des casseurs, on a même parlé de l'hôpital Necker, etc., où il y a eu 4 vitres brisées. Et en fait, quand on rentre dans les détails, on se rend compte que les CRS ont bloqué pendant plus d'une heure la manifestation à cet endroit-là. Donc il y a vraiment une propagande dans le discours, il y a vraiment de la violence sur le terrain. Et là, il y a une annonce du gouvernement que pourquoi pas interdire carrément les manifestations contre la loi El Khomri. Il y a une tension du pouvoir. Alors maintenant, ça nous surprend plus, parce que c'est... Avant, il y avait peut-être cette illusion du Parti Socialiste qui était un peu moins pire. Mais enfin, nous qui suivons l'actualité, que ce soit à Radio Zinzine ou autre part, il y a quelque part, on est un peu bluffé parce que ce qui est en train de se passer, un tel raidissement du pouvoir et des dirigeants qui est en train de se passer.
Sur les possibles interdictions de manifestations, bon, c'est purement scandaleux. Et je pense, de toute façon, quelles que soient les prises de position du gouvernement, ce ne sera pas suivi, quoi. S'il en venait à interdire des manifestations, je pense que, y compris, ce serait un véritable enjeu pour tous ceux qui veulent lutter aujourd'hui de continuer à descendre dans la rue pour porter des revendications. Donc je pense que ça fait plus partie de la panoplie de propagande et d'intoxication qu'on a eue depuis des mois de la part du gouvernement que d'une réelle mesure qui va être prise et qui serait pas suivie, quoi. Ça, c'est parfaitement évident. Sur le raidissement du gouvernement, alors en général, c'est toujours un peu comme ça, hein. À partir du moment où on a un gouvernement, un pouvoir qui est fragilisé, ben du coup il y a un raidissement avec stigmatisation. On a eu les casseurs, puis on a eu la CGT, puis on a eu les casseurs, Là, on a les casseurs et la CGT qui marcheraient main dans la main. Enfin, ça fait partie d'une vraie tactique du gouvernement pour essayer de s'en sortir. Je dis pour essayer de s'en sortir parce que finalement, ce projet de loi El Khomri, en dehors de vraiment transcrire une vision totalement libérale de ce qu'est devenu le Parti Socialiste aujourd'hui, c'est probablement pour le gouvernement qu'on a en place aujourd'hui et pour François Hollande, une préparation de la prochaine élection. Présidentielle, dans la mesure où, c'est évident pour tout le monde, quoi. La base électorale de gauche du gouvernement n'existe plus, quoi. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense que les communicants autour du gouvernement et de François Hollande sont là en train de se dire que s'il y a une petite chance, ça va effectivement se gagner au centre et à droite. Donc, du coup, le positionnement de rester droit dans ses bottes sur une loi de pure inspiration libérale, encore une fois, que le MEDEF fait semblant de combattre, mais qui finalement est tout à fait satisfait, même s'il préférait sûrement la version du Sénat. Oui, toujours plus. On n'est plus du tout sur une écoute des revendications, puisqu'il y a quand même toujours, d'après les sondages, même si c'est pas tout à fait ma tasse de thé, à peu près 60% de l'opinion publique qui dit aujourd'hui soutenir les grévistes et demander le retrait de la loi El Khomri. Donc ils n'en ont strictement rien à foutre. Ils sont partis dans leur truc. Et pour revenir là très rapidement sur le rapport de force, parce que c'est aussi tu parlais du bilan, c'est un mot qui écorche encore un peu les oreilles là, parce qu'on n'a pas envie de se dire que c'est fini, mais bon, il faut quand même, à un moment donné, on va quand même le faire, le bilan, à la fois au niveau cheminot, mais au niveau interprofessionnel aussi, hein. On a quand même au niveau de l'analyse, deux trois idées, quoi, à savoir que ça a été très long, trop long. Probablement le processus de construction d'un appel à la grève reconductible généralisé et coordonné sur pas mal de secteurs. Hein, on a eu quand même pas mal de tergiversations, notamment au niveau de la CGT, hein, même s'il y avait des secteurs qui sont allés. Mais on a eu l'impression, y compris à Marseille, là, hein, pour moi j'ai un peu suivi le congrès confédéral, on a eu quand même l'impression qu'il y avait quand même une grosse partie des délégués, des militants qui étaient pour un appel clair, net et précis à une grève reconductible coordonnée. Il y avait quand même un appareil confédéral qui prenait appui sur pas mal de fédérations, notamment la mienne, la fédération cheminote, pour continuer dans le discours, mais pas construire ce mouvement, quoi. Donc ça a été effectivement très long. Et puis là, on se rend bien compte qu'il y a eu entre la pétrochimie, les transports, les ports, le ferroviaire, la poste, enfin l'éducation. Il y a eu quand même un manque de coordination. Et quand on veut construire une grève reconductible, alors qu'on peut appeler grève générale, hein, mais justement pour pas que ça reste un slogan, pour que ce soit traduit dans les faits, il faut à un moment donné tout arrêter. Parce qu'il n'y a pas eu ça, il y a eu des initiatives comme collectif En Bloc Tout, quoi, qui s'est structuré en rassemblant des syndicalistes, notamment CGT, Solidaire et FSU, CNT aussi, pour essayer de pallier à cet appel clair et précis ce qui constitue encore le premier syndicat en France aujourd'hui, c'est-à-dire la CGT. Mais c'est quand même compliqué. Donc nous, on a quand même l'impression qu'il y a eu, au niveau de l'appareil syndical, au moins un frein ou un manque de coordination qui n'a pas permis à des secteurs un peu stratégiques de se mettre ensemble en grève au même moment et vraiment de faire un rapport de force pour peser. Ça a été beaucoup trop étalé dans le temps.
Je suis un peu dans ton sens, hein, mais c'est vrai que j'en discutais avec un militant CGT dans une manifestation et je lui dis, mais si jamais on avait regroupé l'ensemble des actions qui sont réalisées en ce moment contre le gouvernement, enfin qui ont été mis en place pendant 2 mois, si on la mettait pendant une ou 2 semaines, je pense que le rapport de force aurait été beaucoup plus intense. Et donc cette personne, hein, justifiait le fait qu'il fallait aussi jouer sur le long terme, faire les choses petit à petit. Mais il me semble que, et là du coup ça rebondit sur ce que tu viens de dire, que y aurait eu peut-être cette fenêtre de possible de faire des actions dans un même moment. J'ai l'impression que c'est vraiment la temporalité qui n'a pas joué, parce qu'au final, les gens, ils sont descendus de la rue, ils ont perdu aussi des journées de salaire, ils étaient sur des blocages, mais toute cette énergie, si elle avait été concentrée, si on peut parler de bilan, peut-être ça serait une idée.
Ouais, moi je suis plutôt d'accord, hein. Quand on a vu le nombre de journées de 24 heures qui se sont succédées dans plein de secteurs, hein, à partir du 9 mars, 31 mars, en avril, en mai, à la SNCF on a eu aussi succession donc de grèves de 48 heures, hein, qui ont été appelés par la CGT, 18 et 19 mai, 25 et 26 mai. Et on peut même penser, hein, mais en toute humilité, hein, que si au niveau Sudrail, on n'avait pas poussé comme on a poussé pour avoir un dépôt de grève reconductible à partir du 31 mai, y compris la Fédération CGT Cheminots était partie pour faire 1er et 2 juin, encore, en 48 heures, et voir après ce qui se passait. Parce que, enfin, moi, je souscris tout à fait à ce que tu viens de dire, hein, sur l'histoire de temporalité. Et après, il y a une autre dimension aussi, hein, c'est sur la convergence des luttes en elles-mêmes. Pour nous, au niveau Sudrail, très clairement, dès le début, on affichait la double revendication. C'était une revendication concernant la réglementation du travail SNCF et ferroviaire, donc en gros pas de dumping social, et le retrait de la loi El Khomri. On a eu extrêmement du mal au niveau de la fédération CGT à converger unitairement vers cette double revendication. Et encore une fois, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a pas mal de secteurs où ce sont plutôt les revendications catégorielles qui ont été portées, et en laissant un peu tomber la dimension interprofessionnelle. La pétrochimie, oui. La pétrochimie, ça fait partie de ce secteur emblématique qui était vraiment sur la loi El Khomri, quoi. Au niveau des transports, c'était pas ça. Enfin, c'était ça, mais très rapidement, ça a été désamorcé sur la question des heures supplémentaires. Au niveau de ce qui est au niveau aérien aussi, ça a pu être en partie désamorcé. Donc, ça nous paraît important, nous, au niveau syndical, c'est bien sûr d'avancer sur des revendications professionnelles, mais c'est évidemment de participer à la construction d'un mouvement interpro. Quitte à répéter un peu, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est en tous les cas l'opinion pour Sudrail et pour l'Union syndicale solidaire. On est certes un peu déçu de ne pas avoir pu porter le rapport de force où on voulait le porter, mais on n'est pas désespéré, quoi. On n'est pas désespéré, on n'est pas abattu. On pense que ça continue, hein. C'est un peu la problématique. De toute façon, quand on fait du syndicalisme, c'est relativement un travail de fourmi au quotidien. À certains moments, il y a des offensives patronales, libérales, qui mettent pas mal de monde dans la rue. On essaye de construire ce rapport de force. Bon, là, ça fait quand même quelques temps, tout ce qui a eu lutte contre les différentes lois de retraite, etc., où bon, c'est quand même sur le papier, c'est des défaites, quoi. Mais voilà, enfin, on n'est pas abattu par ces absences de victoire, qu'on est quand même toujours à se dire qu'on va continuer ce travail de fourmi pour le progrès social, parce que de toute façon, la lutte, même si elle paye pas immédiatement sur le long terme, elle paye, ne serait-ce que freiner les ardeurs patronales et libérales. Et puis, on pense quand même qu'on va quand même arriver à un moment donné à un vrai point de rupture, hein. Et encore une fois, pas pour faire dans le slogan, mais vraiment, là, on en est une situation où la question du partage du travail et du partage des richesses va se poser, et de plus en plus intensément. Donc oui, on pense qu'il faut renforcer aujourd'hui l'outil syndical, y compris dans des zones où il est totalement absent, des zones de précarité, des petites boîtes, etc., et continuer ce travail de fourmi pour avoir un jour au niveau de la société, un vrai rapport de force qui puisse imposer une transformation sociale. Parce qu'en fait, l'idée, c'est toujours ça. Et je pense que la majorité des personnes qui étaient dans la rue pendant ces mois de mai et juin l'étaient, parce qu'au fond d'eux, ils sont convaincus que c'est à travers des luttes et à travers des mobilisations sociales qu'on va pouvoir faire avancer et changer la société. C'est plus du tout sur de déposer un quelconque bulletin de vote aujourd'hui dans l'urne. Donc je pense que ce mouvement-là, il ne s'est pas arrêté, il ne va pas s'arrêter. Et donc on se donne rendez-vous dans pas longtemps, dans la rue et en grève.
Bah merci pour cette note d'espoir. Merci Fred.
De rien.
Late last night, I thought I heard her cry in the cool of the midnight sun. Then came a blast, a sudden morning light, the morning's flashing gun. Mama, she had to get away quick, but her kind heart still remains, filling me up on those cold, sleepless nights, and I'm waiting for the coming. Because misery loves company, cuts the pain in two. Misery loves company, that's why I check the mail. Maybe my baby should send me some rope. What I want and what I need is some light.
De retour en direct sur Radio Zinzine, à noter après cette interview qu'il y a quand même un appel à manifestation le 23 et le 28 juin. On verra bien comment ça se passe. Sinon, on est un peu pris par le temps. Je voulais davantage parler du foot et revenir sur ce qui s'était passé à Marseille lors du match France-Russie, même si on en a beaucoup parlé dans les médias. Je pense qu'on en parlera davantage la semaine prochaine, puisqu'on a réalisé une interview hier avec Tiffen de Radio Zinzine, avec des ultras. Alors, les ultras, c'est les supporters qui défendent leur équipe bêtes et ongles et qui les supportent et qui ont quasiment une forme de vie autour de ça. Donc il y a autant des gens d'extrême droite qui sont plus des hooligans, il y a aussi des gens d'extrême gauche, et on s'est dit que c'était assez intéressant d'aller les rencontrer, parce que ce n'est pas, en tout cas je parle à, pour moi, ce n'est pas ma culture ni sportive ni politique. Donc on reviendra davantage en détail sur cet Euro 2016 et notamment sur Marseille. Et juste à noter qu'au niveau des Russes, effectivement, par rapport aux Anglais, ils étaient extrêmement bien organisés. On a pu le voir dans les rues de Marseille, même si plusieurs se sont fait choper près de Cannes dans un bus. Il y a eu des peines de prison très lourdes, hein, puisque ça va de 2 à 3 ans pour des violences qui ont été faites sur des Anglais, hein, 2 à 3 ans de prison ferme. Voilà, il y a aussi une personne qui s'appelle Alexandre Shprygin, alors désolé pour la prononciation, qui est une figure assez importante en Russie, puisqu'il est tout simplement néo-nazi et qu'il est assez proche de Poutine aussi, puisqu'on le voit pas mal en photo avec lui à divers endroits, et que Poutine d'ailleurs a dit que ce n'était pas si grave ces violences entre supporters, et qu'il voyait pas comment quelques centaines de supporters russes auraient pu agresser des milliers d'Anglais. Bah, c'est tout simplement parce que les Anglais étaient morsous et que les Russes étaient extrêmement bien organisés. Sinon, par rapport à Marseille, on peut noter quand même qu'il y a eu l'interdiction des écrans à l'extérieur pour les rediffusions de matchs de foot, qui a été décidée par la mairie, ce qui n'est pas du tout suivi, hein, on peut le dire quand même. Il y a aussi cette interdiction de vente d'alcool, donc le jour d'avant le match, le jour du match et le jour d'après. On peut dire que c'est pas trop suivi non plus, hein. Et il y a aussi la décision de décaler la fête de la musique, qui a lieu normalement le 21 juin et qui là est repoussée au 23 juin. On verra si c'est suivi, mais j'y crois pas trop non plus. En tout cas, la soirée du 21 juin risque d'être assez tendue, puisque c'est le match entre la Pologne et la Hongrie. À noter aussi que les 210 supporters hongrois seront accueillis au camping Marina Plage de Vitrolles. Ça va être une chouette ambiance à Vitrolles. On finit, le technicien Damien veut rajouter quelque chose.
Ouais, puisqu'on évoquait le 21 juin, c'est pas très suivi non plus la décision de repousser la fête de la musique. Et si vous êtes sur Marseille, on vous invite à venir sur la plaine où Radio BAM et le Kirikrou organisent une petite fête de la musique.
Merci Damien pour cette annonce. Et pour finir ces informations, on va tout de suite écouter les brèves du Kurdistan, en sachant que le gouvernement d'Erdogan, gouvernement turc, continue son offensive contre les villes qui abritent entre guillemets les terroristes du PKK, et que c'est très très chaud là-bas. En tout cas, on écoute ces brèves comme chaque semaine.
Au Bakur, au Kurdistan du Nord, en Turquie, les violences de l'État turc se poursuivent. À Ahmet, l'armée a brûlé l'espace de stockage des livres d'une maison d'édition kurde. Dans le quartier Yeni de la ville de Nusaybin, plusieurs témoins assurent qu'une vingtaine de personnes ont été tuées par un peloton des forces turques la nuit du 31 mai 2016. Les corps ont ensuite été regroupés et brûlés. Le lieu a été gardé toute la nuit par un véhicule militaire turc, et au matin, toutes les preuves de l'exécution ont été supprimées par les forces spéciales turques. À Şırnak, ville située près de Cizre, près des frontières turco-syriennes et turco-irakiennes, les affrontements continuent. Près de 80% de la ville est aujourd'hui brûlée. Un peu plus à l'est de Şırnak, dans la ville de Gever, les habitants commencent à entrer dans la ville après la levée du couvre-feu. Mais en raison des nombreuses maisons détruites, beaucoup se retrouvent sans abri et ont dû planter des tentes dans les jardins. Désormais, on compte près de 2000 Kurdes dans la région montagneuse du mont Djoudi, au sud de la Turquie, près des frontières turco-syriennes et turco-iraniennes, déplacés à cause des attaques de l'État turc à Nusaybin et à Şırnak. Mais la résistance continue. Selon les forces de défense du peuple, HPG, le 7 juin, 26 soldats ont été tués à Çemzinan et 19 soldats ont été tués à Çemdinli, ville située dans la province de Hakkari, dans le sud-est de la Turquie. Dans la province de Mardin, 30 officiers de police ont trouvé la mort. Parallèlement, le ministère de la Défense turc a soumis un nouveau projet de loi près de l'Assemblée parlementaire de Turquie. Ce projet de loi demande qu'une protection juridique soit assurée pour les soldats de l'armée turque. S'il est accepté, ce projet rendra obligatoire la demande d'une autorisation du Premier ministre turc pour ouvrir toute enquête ou procès à l'encontre d'officiers militaires. La proposition de ce projet intervient au moment où ne cesse d'augmenter les effectifs des autorités turques et des militaires participant à la guerre en cours au Bakour. D'autre part, après l'adoption par l'Allemagne d'une résolution qui reconnaît le génocide des Arméniens réalisé par les forces ottomanes en 1915, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a qualifié les 11 élus allemands d'origine turque de « sang corrompu ». Après cette déclaration, le ministère allemand des Affaires étrangères a demandé aux parlementaires de ne plus se rendre en Turquie pour des raisons sécuritaires. Cem Özdemir, qui est le coprésident des Verts en Allemagne, a reçu des menaces de mort. Au Rojelat, au Kurdistan de l'Est, en Iran, un conflit armé a éclaté aujourd'hui entre les forces iraniennes et les Peshmerga du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran dans le village de Karakassal, près de la ville kurde Chno, à l'ouest, proche de la ville d'Urmiye. Dans le conflit, 6 soldats iraniens ont été tués. L'un des 6 était connu comme l'une des figures locales du régime. Près de 60% du village est détruit et 2 civils ont trouvé la mort, un homme et un enfant. Les nouvelles ont officiellement été annoncées par le PDKI, Parti démocrate kurde d'Iran. Cet événement est d'une importance majeure car c'est la première fois depuis 10 ans qu'un conflit armé avec le régime iranien éclate à nouveau. Parallèlement, Mohammad Sadiq Qaban, activiste pour les droits de l'homme, continue la grève de la faim dans la prison iranienne pour protester contre le système judiciaire iranien.
Et on finit ces informations avec une petite note positive. On va écouter un poème de Gloria Evangelina Anzaldúa, poétesse, auteure universitaire et militante féministe lesbienne chicana qui vivait aux États-Unis et qui est maintenant décédée, puisqu'elle est morte en 2004 à Santa Cruz. C'est un extrait d'une émission qui s'appelle Hyper Soupe que nous réalisons sur Radio Galère 88.4 à Marseille, qui a lieu tous les troisièmes mardis du mois à 20h30 jusqu'à 22h, où on lit des poèmes, on lit des textes en rapport avec un thème. Alors à chaque fois on change de thème et cette fois c'est la fête en général. Donc mardi soir, n'hésitez pas à écouter Radio Galère. Si vous n'êtes pas sur la zone d'écoute, vous pouvez nous écouter sur internet. Et ce poème parle de la frontière, des migrations, donc c'est un sujet d'actualité et on peut voir aussi comment on arrive à créer des choses belles autour de sujets extrêmement compliqués et extrêmement douloureux. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de Radio Zinzine ainsi que sur BAM Radio et merci Damien pour ta présence tous les samedis en tant que technicien. À bientôt, à la semaine prochaine.
Vivre à la frontière veut dire que tu n'es ni hispana, india, negra, española, ni gabacha, eres mestiza, mulata, half-breed, prise dans le feu croisé des camps ennemis, tandis que tu portes les 5 races sur ton dos, ne sachant de quel côté te tourner, ni où aller. Vivre à la frontière, ça veut dire que l'India qui est en toi, trahie pendant 500 ans, ne te parle plus. Ça veut dire que les Mexicanas te traitent de renégate, et que nier l'anglo qui est en toi est aussi néfaste que d'avoir nié l'indienne ou la noire. Cuando vives en la frontera, les gens marchent dans tes pas, le vent vole ta voix. Tu es una burra, une bourrique, un buey, un bœuf, un bouc émissaire, mais annonciatrice d'une nouvelle race, moitié-moitié, autant femme que homme et aucun des deux, d'un nouveau genre. Vivre à la frontière, ça veut dire mettre du chi dans le borch, manger des tortillas au blé complet, parler Tex-Mex avec un accent de Brooklyn, être arrêté par les patrouilles de la Migra au point de contrôle. Vivre à la frontière, ça veut dire qu'il te faut batailler ferme pour résister à l'attrait de l'élixir d'or qui coule à flot, à l'appel du pistolet, à la corde qui noue le creux de ta gorge. À la frontière, c'est toi le champ de bataille sur lequel les ennemis pactisent entre eux. Même chez toi, tu es une étrangère. Les conflits frontaliers ont été réglés, mais la détonation des tirs a réduit à néant la trêve. Tu es blessée, abandonnée à toi-même, morte, résistante. Vivre à la frontière, ça veut dire que le lami noir aux dents blanches acérées veut déchiqueter ta peau rouge olivâtre, broyer le noyau, écraser ton cœur, te pilonner, te compresser, t'étaler, jusqu'à ce que tu sentes le pain blanc à en crever. Pour survivre à la frontière, il te faut vivre sin fronteras, être un croisement de chemin.